J'appelle donc Valère de Varina et Florence Delay. Dans l'ordre du programme, sous le titre général de la question du divin, qui est la question qu'au fond on pose depuis le début, mais je remarque en même temps qu'on a plus de facilité les uns et les autres à parler du sacré que du divin. Je me demande d'ailleurs pourquoi, ça m'intrigue beaucoup, peut-être on va en parler. Donc je vais d'abord donner la parole à Valère de Varina, comme c'est indiqué. Valère de Varina, je crois que beaucoup de gens ici le connaissent, du moins je l'espère. L'écriture, la parole, le verbe, le théâtre. Et notamment, les deux derniers textes qui sont ici cités, L'espace furieux et l'acte inconnu. Je renommerai simplement, puisque on ne se connaissait pas. Je suis très heureux d'avoir appris, mais il y a déjà un moment déjà, que vous avez publié un livre d'hommage à Louis de Funès. Ça m'a fait énormément plaisir. Parce que c'est très rare d'écrire des textes en hommage à de grands acteurs. Et ça me fait énormément plaisir, de même que j'ai écrit il n'y a pas longtemps un livre sur Gabin. Je pense que c'est très bien. Moi aussi, j'aime les acteurs beaucoup. Voilà. Je vous laisse la parole. Vous allez nous parler. Vous allez lire un texte, en fait.
Oui, je vais lire 14 pages. Mais bon, comme Florence aussi a la grippe, moi j'ai fini ce texte dans la grippe, donc je vais parfois tomber sur des os, des choses que j'ai. Bon, voilà, ça va être un peu une lecture de brouillon de texte encore en gestation. Alors, voilà. Le texte s'appelle, le titre s'appelait Perdition 314. Alors, simplement quelques notes, des fragments d'un carnet de lecture et de voyage, mais d'abord quelques éclaircissements sur le titre. J'ai annoncé Perdition 314, qui n'est pas le vrai titre. Le véritable titre devait être Pour en finir avec le sacré. J'y ai renoncé parce que je le trouvais un peu claironnant et injuste pour cette exposition qui rassemble tant d'œuvres magnifiques. À la première visite rapide, l'œuvre la plus forte m'a semblé celle de Robert Filliou, les 1000 dés, le déversement, le don du 1, qui nous rappelle l'étymologie du mot dé, en italien dado, dé venant de datum. Un coup de dé est une donnée. Le rébus de Robert Filliou nous montre Dieu comme une donnée plurielle, le versement du 1, un épanchement, un don de l'univers. Très émouvante aussi, la présence dans un coin de ces deux vilains bouts de bois croisés en 1949 par Germaine Richier, et même plus émouvant que l'original, parce qu'il s'agit là d'une pauvre maquette, d'un crucifix en miniature, qui vient nous rappeler à point nommé que Dieu est petit et s'est aussi incarné pour qu'on s'en moque, comme l'homme de douleur d'Isaïe et comme un pantin cloué. Je reviens au premier titre, Perdition 314, ou « Au Dieu inconnu ». C'est le titre d'une collecte de 310, que j'ai faite de 310 définitions de Dieu, toute vraie et toute fausse, m'a dit Jean-Luc Marion, que j'étais allé consulter. Litanie qui formait vers le milieu du livre une rosace dans la chair de l'homme. Recueillant les définitions un peu partout et les agençant en désordre choisi, je voulais que s'ouvre tout grand un éventail formé une sorte d'herbier des définitions de Dieu. Un herbier parlant par l'ordre et parlant par son désordre, comme tous les herbiers. Dans le couloir qui donne accès à l'exposition, on peut entendre ce texte magnifiquement enregistré par l'actrice Laurence Maillor. Je vais en lire 2 pages, la 7e et la dernière. Jean Rostand observe que que si l'on tue un homme, on est un assassin. Si l'on tue des millions d'hommes, on est un conquérant. Et si on les tue tous, on est un dieu. Isaïe témoigne que dans tous les malheurs, lui aussi était dans le malheur. Le marquis de Sade ressasse que son plus grand chagrin est qu'il n'existe pas de Dieu et de se voir privé par là du plaisir de l'insulter. Les frères Goncourt s'accordent à dire que si Dieu a fait le coït, l'homme a fait l'amour. Constantin Monomaque prétend que Mahomet se forge de Dieu une idole invisible. Sartre serine. Dieu se tait, je n'en saurais démordre. Madame Guyon s'enflamme. Dieu est tout bouche, comme il est tout amour. Louise Michel trouve que le bon Dieu est trop versaillais. Quant à Spinoza, il gage que si les triangles faisaient un Dieu, il lui donnerait trois côtés. Dietrich Bonhoeffer affirme « Seul un Dieu faible peut porter secours. » Arto Gapi, Dieu est-il un être? S'il en est un, c'est de la merde. Les adeptes de la franc-maçonnerie le surnomment le Gadlu. Valère Novarina avance que Dieu est la quatrième personne du singulier. Gainsbourg chante « Dieu est juif ». Rabelais glisse « À Dieu, rien d'impossible » et s'il le voulait, les femmes auraient dorénavant leurs enfants par l'oreille. Martin Goubert traduit « Je suis » par Yves Binda. Maître Eckhart commente. Dieu dit à Moïse, « Ayez à chair ayez, ego sum qui sum. » Observez que si Dieu avait voulu dire qu'il est l'être, il se serait contenté de dire « ego sum ». Mais il a dit autre chose. Si l'on rencontre de nuit quelqu'un qui veut se cacher, ne veut pas se nommer, qu'on lui demande « qui es-tu ?», il répond « je suis qui je suis. » C'est ce qu'a fait Dieu dans sa réponse à Moïse. Dieu n'a pas voulu se nommer. Donc, Dieu n'est pas l'être. Deo ergo non competit esse. Dieu n'a pas à être. À propos de la cécité dont saint Paul fut frappé à Damas, que Luc nous relate en ces termes, Paul se releva de terre, les yeux ouverts, et il ne vit rien. Saint Augustin aimait l'idée que lorsque saint Paul ne vit rien, il vit Dieu. Maître Eckhart, reprenant cette interprétation, l'amplifie de la façon suivante. Lorsqu'il vit le néant, c'est alors qu'il vit Dieu. Lorsqu'il se releva de terre, les yeux ouverts, il vit le néant. Le néant était Dieu. Car avoir vu Dieu, saint Paul appelle cela un néant. Il vit le néant, c'était Dieu. Dieu est un néant, ein nicht. Dieu est quelque chose, ein nicht. Car ce qui est quelque chose, cela est aussi néant. Jarry constate que Dieu est le plus court chemin entre le zéro et l'infini. Je reviens à pour en finir avec le sacré. Au sacré immobilisant qui en clos, trace un périmètre, enferme dans son temple, interdit, et ne dissimule dans son secret que des dieux en bois qui ne parlent pas, il faut opposer le saint qui se communique, qui est contagieux et surgit partout. Un don, un échange, une offrande versée, une fluidité. Le sacré défend d'entrer, de toucher. Il trace, il délimite la réserve des initiés. Ce qui est saint vient vers nous et s'offre à nous. La sainteté n'est jamais propriété de personne. Elle nous est offerte et ouverte. Toute dilatation est don et le contraire d'une clôture. Au contraire du sacré qui cache, tient à distance, il y a dans les religions de la Bible quelque chose de tactile, d'amoureux, comme un toucher et une respiration entre Dieu et nous. Un toucher et une respiration, pas une vue. La Bible se passe du sacré. D'ailleurs, le mot n'y est pas prononcé. C'est le mot saint que l'on trouve à chaque page. Au contraire du sacré qui demeure en lui, se garde Dieu en secret. La sainteté se communique, se diffuse. Le sacré est autre. Le sacré est ailleurs. Le saint est là, s'ouvre partout, en chaque lieu et en nous. Le sacré est une clôture. Ferme Dieu, le tient à part, se le garde, le réserve à certains. C'est une notion gnostique, ésotérique, spirite, très idolâtre, très contraire aux religions de l'ouverture, du don de Dieu, de son déversement, de son offrande en livre, en homme, en chair et en parole ou en dé. Le sacré, nous, ferme à double tour, immobilise, fascine, paralyse, arrête, fixe, fige le drame au lieu de le respirer, idolâtre le livre au lieu de le lire, ordonne de ne plus faire un pas, plus franchir. Sacrés sont les murs, les frontières, les barrières, les livres intraduisibles, les temples clos et les lieux interdits. Où y a-t-il du sacré? Dans Parsifal, sous les pyramides, à Montserrat, à Nuremberg, dans les cultes égyptiens, Bogomil et Qatar, dans les temples des Baals et des Astarté, dans la tête des suicidés du temple solaire, dans les rites sacrés. Le sacré est lié à la gnose, aux religions en mystère, aux rites secrets, aux initiés du temple où l'on s'enferme entre soi. Alors que tout est ouvert, dans les religions à livre ouvert, que l'on peut citer, traduire en toutes les langues, illustrer, commenter, dérouler devant nous les religions de la parole ouverte, du verbe faire et même pour certains, de la parole qui se mange. Dans la liturgie qui est action ouverte devant le peuple, acte au peuple, acte vers tous, le pain du livre s'offre à tous. Pas de secret dans la liturgie. Le prêtre, le rabbin, est un pasteur, un berger, non pas un initié. Ne confondons pas sacré et spirituel, et même opposons-les. Le sacré dit ce qui est hors d'atteinte et interdit. Nous ne devons pas toucher, sous peine de souillure ou de mort. Tandis que le spirituel est échange, lien par le souffle, délivrance par le don de notre respiration. Le souffle est relation, échange et transformation en mouvement, dépense de l'amour. Sur ce thème de la désenclôture, de l'inversion du temple, je lirai une page de Mme Guyon, une page toute simple et fondamentale, où il découvre soudain l'intimité de Dieu. À partir de cet instant, tout se retourne. Ce qui est très beau ici, c'est qu'elle découvre cette intimité, cette intériorité de Dieu, non par introspection, mais soudain d'un dialogue. D'un dialogue avec une personne d'un autre sexe. Et doublement d'un autre sexe, doublement séparé d'elle, puisqu'il s'agit d'un religieux. C'est dans la page 127 de son autobiographie, La rencontre avec l'ermite. C'est l'exposé le plus fort et le plus simple de ce qu'on pourrait nommer l'intériorisation biblique, la transcendance par dedans. Madame Lyon, je pris avec moi une de mes parentes et j'y allais. De loin qu'il me vit, il demeura tout interdit, car il était fort exact à ne point voir de femme. Et une solitude de 5 ans dont il sortait ne lui avait pas rendu peu étrangère. Il fut donc surpris que je fusse la première qui se fût adressée à lui. Et ce que je lui dis augmenta sa surprise, ainsi qu'il me l'avoua depuis, m'assurant que mon extérieur et la manière de dire les choses l'avaient interdit, de sorte qu'il ne savait s'il rêvait. Il n'avança qu'à peine et fut un grand temps sans ne pouvoir parler. Je ne savais à quoi attribuer son silence. Je ne laissais pas de lui parler, de lui dire en peu de mots mes difficultés sur l'oraison. Il me répliqua aussitôt, « C'est, madame, que vous cherchez au-dehors ce que vous avez au-dedans. Accoutumez-vous à chercher Dieu dans votre cœur et vous l'y trouverez. » En achevant ces paroles, il me quitta. Le lendemain matin, il fut bien autrement étonné lorsque je fus le voir et je lui dis l'effet que ces paroles avaient fait dans mon âme, car il est vrai qu'elles furent pour moi un coup de flèche et percèrent mon cœur de part en part. Je sentis dans ce moment une plaie très profonde, autant délicieuse qu'amoureuse, plaie si douce que je ne désirais n'en guérir jamais. Ces paroles mirent dans mon cœur ce que je cherchais depuis tant d'années, ou plutôt elles me firent découvrir ce qui était et dont je ne jouissais pas faute de le connaître. Ô mon Seigneur, vous étiez dans mon cœur et vous ne demandiez de moi qu'un simple retour au-dedans pour me faire sentir votre présence. Ô bonté infinie, vous étiez si proche et j'allais courant ça et là pour vous chercher et je ne vous trouvais pas. Ma vie était misérable et mon bonheur était au-dedans de moi. J'étais dans la pauvreté au milieu des richesses et je mourais de faim près d'une table préparée et d'un festin continuel. Ô beauté ancienne et nouvelle, pourquoi vous ai-je connu si tard? Hélas, je vous cherchais où vous n'étiez pas, et je ne vous cherchais pas où vous étiez. Fin de l'ennuyant. C'est un écrivain extraordinaire, malheureusement mal connu et pas bien édité. Il n'y a plus une édition de l'autobiographie qui coûte. Je sais pas, une seule fois. Bon, je reprends. La notion de sacré est en tout point contraire au génie renversant de la Bible, qui est un livre où Dieu se rencontre au coin d'une fontaine, près d'un buisson, où Dieu se donne, s'offre, se communique, communie, puisque sa parole se mange. Dieu est touché dans le lassement et le dénouement, l'enlacement respiratoire de la prière. Dieu n'est pas vu et ne peut être compris, mais il est touché et il se mange. Toute la Bible est un affranchissement des idoles et un franchissement de l'enclos du sacré. La Bible entière ouvre et franchit la mer Rouge, le tombeau, le dé du Yabok, les anciens interdits. Elle passe et dépasse les anciennes frontières, la vieille mort. Désacralisation de Dieu. L'Écriture désacralise Dieu d'une seule phrase. Une phrase qui n'existe que dans ce livre-là, la Bible, et qui est au cœur de ce livre-là. S'il ne restait de la Bible que cette phrase-là, tout pourrait être reconstitué à partir d'elle. C'est « Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance ». Donc il n'est pas de l'autre côté d'un mur, mais avec nous, face à face. Nous ne pouvons voir Dieu, mais nous sommes face à lui. En miroir, non dans un miroir visible, mais dans un miroir ardent, un miroir d'optique amoureuse. L'énoncé central de la Bible pose ce libre dialogue, cette conversation entre le divin et l'humain. N'ayant plus rien d'une religion en mystère, la Bible ouvre l'alliance, l'amitié entre Dieu et les hommes, l'échange entre lui et nous. Elle nous libère de la peur et nous invite à renoncer au grand frisson, à l'effroi du sacré. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'est en rien le grand autre ni l'être suprême. Dieu est notre don. Il n'a pas à être ni à être grand. Dieu est notre offrande. Nous lui donnons notre souffle. Par la prière, nous lui offrons le souffle qu'il nous a donné, qui nous ôte et qui nous donne. Nous le touchons par dedans, par le souffle, par l'esprit qui circule entre lui et nous, qui passe, qui s'échange entre lui et nous, l'esprit qui nous relie, lui et nous, par le huit spirales circulatoires, circulaires, par l'infini redressé du huit, le souffle et l'esprit de l'échange qu'il y a entre Dieu et nous. L'esprit, c'est le souffle. Notre souffle est entre ses mains. Le huit du renouveau qui meurt et renaît. Un renversement, une réversibilité qui nous remet droit. La prière que nous lui offrons est un échange amoureux avec lui, une croisée respiratoire. Toucher respiratoire, matérialisme spirituel, spiritualisme dialectique, tous les acteurs connaissent ça. Louis de Funès ne parlait que de ça. Tout dans la Bible est passage, franchissement, traversée, approche, médiation. Le lecteur de la Bible jamais n'éprouve le grand frisson du sacré, mais est invité sans cesse à interpréter, mettre les textes en relation les uns avec les autres, à retrouver l'épaisseur, à en respirer le volume, les sens à foison, à en épanouir les sens, à irriguer le texte de son souffle. La Bible s'ouvre ensemble, se lit à plusieurs, se commente dans l'inquiétude, se compare à l'envers et à l'endroit, se déploie en arborescence d'écho. La Bible palpite. Dieu ne demande pas qu'on annonce un texte sacré, il nous ouvre un livre écrit par les hommes, ouvert aux interprétations, un livre des passages, un livre à traduire dans toutes les langues de la terre, un livre à ne pas idolâtrer ni à lire, pour entrer en lutte avec Dieu. Il faut citer l'extraordinaire paragraphe de Rupert de Deutz. Quod omnis qui sacré scripture studis atintus incumbit, sensum verbi dei tenere contendat, instar Jacob cum veo lutetur. C'est-à-dire, tout homme qui s'adonne à l'étude des saintes Écritures, s'efforçant de comprendre le sens du Verbe de Dieu, comme Jacob avec l'ange lutte avec Dieu. Regardons maintenant le renversement de la croix. La croix paradoxale qui concentre et dilate, signe et ouvre, crise de l'espace, renversement des contraires, négation d'une négation, point de battement et de renversement, point de vie. La croix détermine un point d'agonie et s'ouvre aussitôt, ouvre tout l'espace, embrasse les points cardinaux. La croix respire comme le signe d'un drame qui charpente, structure, enserre et délivre le temps tout entier. C'est cette force dialectique, négative, renouvelante du christianisme qui en a fait longtemps, en profondeur, le prototype de toutes les constructions philosophiques qui pensaient nous délivrer. S'il y a une frontière dans le christianisme, c'est un passage renversant. S'il y a un seuil, c'est un seuil que l'on franchit en se retournant, un seuil qui nous mène à l'envers. Le christianisme, passage renversant, inversion du sens, paradoxe, scandale et folie, Dieu fait homme, la mort est renversée. C'est donc aussi l'envers d'une religion, une religion à l'envers, une religion tête en bas, la seule religion qui comprenne la mort de Dieu. Mais le judaïsme, lui aussi, ne comprend-il pas, ne porte-t-il pas en son cœur, au cœur de sa pensée, la destruction du temple, et que le temple est devenu maintenant en chacun. La Bible, dans tous ses livres, les livres juifs et les livres chrétiens écrits par des juifs, la Bible ne cesse de franchir, de relier et de nous croiser à Dieu. La notion de sacré lui est parfaitement étrangère. C'est cette filiation, cette intimité avec Dieu, ces caractéristiques de l'Écriture qui fait que nous devons abandonner définitivement le mot « sacré » si nous voulons comprendre quelque chose au christianisme, au judaïsme, à l'Écriture. Un peu plus loin, on trouverait « Dieu se fait homme pour que l'homme se fasse Dieu ». On peut dire que c'est là, dans une lettre de Paul de Tarse, un renversement radical du sacré, la fin de la séparation. Plus de temples fermés, mais une voie ouverte. Je finirai, dans ce récit de voyage, par une visite au buisson ardent, au monastère Sainte-Catherine dans le Sinaï. Rachi dit quelque chose de très beau sur le passage du buisson dans l'Exode. Il commente, un ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Alors, il commente, au milieu du buisson. Et non pas un autre arbre plus élevé, un palmier, un chêne. Non pas un autre arbre, Dieu, Rachid note, Dieu a choisi le buisson, le moins élevé de tous les arbres, comme lieu de sa révélation, montrant par là qu'il était avec les Hébreux dans leur état d'humiliation. Dans l'Exode, Pendant la scène du buisson ardent, il a demandé à Moïse de se déchausser, d'ôter ses sandales. Non parce qu'il est devant le sacré, mais parce qu'il doit aller au-devant du saint, entrer en contact avec lui, pieds nus. Il dit à Moïse, dénude-toi et approche pieds nus. Et non, ne passe pas. Le saint attire, demande qu'on le touche. Et tout se fait comme par une sorte de contamination spirituelle. Au monastère Sainte-Catherine, dans le Sinaï, on vous prend par le bras et on vous fait très vite embrasser le crâne de la sainte au passage, et un moine vous passe aussitôt la bague au doigt. À l'intérieur du monastère Sainte-Catherine se trouve le buisson ardent. Il brûla sans se consumer, et ce phénomène, pour l'Église d'Orient, évoque la virginité de Marie. Dans la petite chapelle qui a été édifiée au sommet du mont Sinaï, le buisson ardent est représenté avec la Vierge du Cygne à l'intérieur du buisson. La Vierge sans défense des Blachernes à Constantinople, celle qui contient le Christ comme en échographie et qui offre ses paumes sans défense comme ça. On la voit aussi à Novgorod. De cette Vierge du Cygne, j'en ai montré une image un jour à François Château et à Christine Fursen pour leur dire que l'acteur devait se présenter ainsi, à nu, sans rien, livré, victor cuia victima. Voilà donc un buisson ardent qui contient bien des choses. Mais il te contient aussi toi, spectateur. Si Dieu a dit qu'il s'appelait Je suis, c'est aussi pour prendre ton nom, notre nom à chacun. Nous sommes tous des Je suis, avant d'être des Francine Figuère, des Isabelle Babin, des Constantin Bobas, des Valère Novarina, des Michel Bodina. Le buisson où Je suis qui je suis s'écrit à l'instant devant toi est un miroir où tu te vois sans image, un miroir sans fin. Il s'ouvre une ardeur, un ardent foyer optique que rien n'éteint. Dieu n'est pas sacré, il est saint, parce qu'il te donne ton souffle que tu lui offres, et parce qu'il est ton vis-à-vis. Il est intouchable, parce qu'intérieur, âme de ta chair, esprit de ton souffle, Dieu est incompréhensible, parce qu'il te comprend. Tu ne connais de lui que le passage du souffle, le vol de l'esprit. Le buisson est un ardent miroir, sans image et sans fin. Il s'ouvre un miroir ardent, le feu qui ne se consume pas. Il y a dedans nous une personne. Il n'y a dedans nous personne. C'est un mot qui s'ouvre vide, très différent d'individu. Individu, notion palastrale, propriétaire, enclos d'homme. L'homme est plus ouvert que ça. Dieu est la quatrième personne du singulier. S'il est quelque chose finalement de sacré, ou presque en tout cas d'intouchable, c'est bien cette place vide, ce creux immatériel, un champ d'attraction. Les acteurs, ouvriers du souffle, en savent plus que nous. J'ai cité Louis de Funès, je terminerai par ce que disait un autre grand acteur comique, Dominique Pinon, dans une des dernières scènes de l'acte inconnu, où il dialoguait avec Myrto Procopio. Pourquoi ce temps? Pourquoi ce vide? Ah, il est long ce vide. Pourquoi ce silence? Dominique Pinon. Pour Dieu. Ah bon? Vous croyez? Dans notre langue, si tu veux bien, comme les latins, ne pas distinguer le U du V, il y a une anagramme du mot Dieu, c'est le mot vide. Dans toutes nos phrases, Dieu est un vide, un mot en silence, un trou d'air, un appel qui permet à l'esprit de retrouver souffle et mouvement. Aucun mot ne trouve autant. C'est dans le langage un mot ouvrant, un mot aimant. Un vide, une attraction dans la pensée, une gravitation, un principe d'amour dans l'univers aimanté, un mot à l'envers de tous les mots et qui remet en mouvement l'esprit. Ne gardez de lui que l'écartèlement de ces quatre lettres dans l'espace. C'est un mot à laisser vide en quatre lettres muettes, liées à l'espace, rayonnant aux points cardinaux. Le mot Dieu, le laisser ouvert et nous attendant. Le laisser vide comme le mot personne. Le laisser désert comme le théâtre d'une séparation, vide comme la scène du creux, le lieu du désir, de la faim, de la gravitation, de l'amour. Le vrai amour, le pur amour, n'a lieu que dans le vide. Il est élan, déprise, saut périlleux. Il n'y a tout pour plus. Je ne comprends pas le raisonnement.
Comme le texte qu'a lu Valère de Varina est un texte long et dense, et un texte parlé avec une grande énergie qui brasse beaucoup de choses, je pense que le mieux c'est peut-être de donner la parole tout de suite à Florence Delay, qui va, dans la mesure où en plus peut-être que les choses qui vont se dire vont aller dans une forme de communication malgré tout, on ne sait pas. On va voir. Donc Florence, qui est grippée, mais qui a pris sur elle pour être avec nous, je la remercie beaucoup, va nous parler de temps ordinaire et de temps extraordinaire.
Je serai plus bref que Valère, et sans sa véhémence extraordinaire. Parce que ce que je trouve très beau dans cette diction, c'est que tout est porté à égalité. Et qu'en fait, si la brouille l'écoute, puisqu'on passe de Madame Guyon à autre chose, avec le même ton. Et ça, on en parlera si vous permettez. Partons d'ici un instant, éloignons-nous, traversons l'Atlantique, rejoignons les peuples indiens disparus de l'Amérique du Nord. Pour eux, le chant était une médecine. La peinture, une cérémonie. La danse, une cure. Le conte, une tentative de guérison collective. Tout ce que nous appelons art n'était pas de l'art, mais un moyen de vivre. Le poème peint, chanté, dansé, tissé, emplumé, voire cuisiné, était nécessaire à la santé. C'est cet état de choses que nous avons aimé retrouver, Roubaud et moi, dans notre anthologie Partition Rouge. Donne un mot, père l'ours, priait en chantant le chasseur Sioux avant de partir chasser son grand-père. Confiant en la magie performative de la prière, devenu ours à son tour, il se répondait en chantant, ma patte est sacrée, tout est sacré, ma patte, tout est sacré. Quand l'espoir de vivre libre fut perdu, quand l'Ouest américain fut entièrement pris dans les toiles d'araignée tissées par l'homme blanc, chemin de fer et fil barbelé, quand presque tous les guerriers furent morts ou enfermés dans les réserves, les survivants se mirent à danser pour retrouver l'espoir. Nous sommes en 1890. Un paiute du Nevada, Vanegia, celui qui fait vivre, autrement dit, provoqua, annonçait le retour des bisons, le retour des guerriers morts et la fin prochaine des Blancs. Ce Christ ressuscité en Indien prêchait la non-violence et la fraternité à travers une danse que lui avait donnée le grand esprit, la Ghost Dance ou Danse des Esprits. Dans toutes les réserves, on se mit à danser. Les Blancs affolés télégraphièrent à Washington. Les Indiens dansent dans la neige et se comportent comme des sauvages et des fous. Il faut agir tout de suite. La police puis l'armée intervint et ce fut le massacre de Wounded Knee, temps historique ordinaire. tandis que les visions de chevaux d'élan noir, chamancieux, qui ressemblent à celles du prophète Zacharie. Les chants conservés de la danse des esprits, seconde Genèse, qui ressemblent à notre Apocalypse, appelaient, elles, le temps extraordinaire. Extrait d'une prière pour accélérer les choses, que je dédie particulièrement à Madame Varina. Prière pour accélérer les choses. Cela se passera ainsi. Le Père descendra, la terre tremblera, tous se lèveront, tendez les mains. Les vivants et les morts seront un. Le Père me montre le chemin, Je suis venu voir mes amis, je suis venu voir mes danses. Ce sera la tâche du Père, pas celle de l'homme. L'armée des esprits approche, le monde entier va de l'avant, chacun est debout et regarde, prions. Le Père aura pitié du plus humble. Mon Père est plein de pitié pour nous. Je tends mes mains vers lui en pleurant. Dans ma pauvreté, je tends les mains. Le plus humble aura pitié aussi. Parce que je suis pauvre, je prie pour toutes les créatures du monde. Écoutez, mes anciennes reviendront. Il me fait danser avec des flèches. Il dit que l'arc est mon père. Grand-mère, continue. Je crois que c'est en train d'arriver. La légion des esprits avance, dit-on. Ils viennent avec le bison, dit-on. Ils viennent avec la terre nouvelle, dit-on. Et j'attends avec le vent et l'espoir. Ce vent, secoue mon tipi. Et chante ce chant pour moi. Revenons chez nous, mais toujours hier, avec le dernier sommet des chimères. Celui qui commence par « Homme, libre penseur, te crois-tu seul pensant dans ce monde où la vie éclate en toutes choses ?» Et s'achève sur ce tercet, « Souvent, dans l'être obscur, habite un Dieu caché, et comme un œil naissant couvert par ses paupières, un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres. » Dans ce sonnet, qui a pour exergue une affirmation de Pythagore, tout est sensible. Gérard de Nerval, hanté par la réconciliation des dieux, se retrouve pieds nus sur la terre sacrée. On attribue à Pythagore un recueil de préceptes écrits en vers, regroupés sous le titre que Gérard reprend, vers doré, vers coréole, le pressentiment mystérieux que tout est sacré puisque tout est sensible. D'auréoles divines sont entourées les vies des saints et des saintes dans la légende dorée de Jacques de Voragine. Dans ces vies que délivrent aussi bien les vitraux, les chapiteaux des églises, les peintures surtout, on va de miracle en miracle par l'intercession des anges. Ce sont eux qui s'impressionnèrent en moi depuis l'enfance, et surtout quand je fis mon premier voyage en Italie avec mes parents. Dans sa petite chambre sur jardin, au début du printemps, une jeune fille à jamais différente, siennoise, padoine ou florentine, reçoit la même visite d'un ange retroussé, à la robe retroussée par le vent, aux ailes encore agitées par la course. Elle, fabuleuse, où Fra Angelico, Lorenzetti et tous les peintres de la Renaissance délivrent un petit territoire de peinture pure, sans autre sujet que le dessin, la couleur. Le messager ne m'importait plus que le message. Je confondais le peintre et le messager. Le divin ne me pose aucune question. Je suis d'un naturel émerveillable. On pourrait me tuer comme l'alouette en m'émerveillant. Le divin répondait à travers la peinture encore mariée à la religion, à travers la littérature encore mariée ou contient la légende. Les loups du poète indien, qui se plaignent qu'on ne les appelle plus oncles ni frères, peuvent écouter prêcher saint François d'Assise. Le grand cerf laïque, qui bondit dans l'existence d'un héros de Giraudoux, dont le seul on sait, lui donnait une leçon de maintien, une leçon contre la mélancolie et la nervosité qui dégradent. Ce grand cerf court depuis la forêt de Brocéliande. Dans la légende dorée, il croise les vies de Saint-Hubert, Saint-Eustache, Saint-Julien. Il réapparaît pourtant et crucifié à l'intérieur de ses ramures, dans le splendide conte de Flaubert. Vous restez à la surface, dira-t-on ? Oui. Dans un premier temps qui n'est peut-être pas terminé, je réponds comme Giraudoux, je trouve assez d'épaisseur à la surface du monde. La surface théâtrale et magique des sacrements, y compris. Je racontais le choc de la rencontre avec un dramaturge du siècle d'or espagnol en classe de philosophie, les traces indélébiles laissées par des concepts ou images comme « La vie est un songe » ou « Le grand théâtre du monde ». Caméran de la Barca pratiquait, entre autres formes théâtrales, l'acte sacramentel qui affirme haut et clair l'action de l'Eucharistie. Près de 100 fois pour la fête du Corpus Christi au printemps, il écrivit un millier de vers sur le pain et le vin. Je reste émerveillé que l'action du sacrement puisse aller de pair avec la passion du théâtre. Par le théâtre de Calderón, écrivait Garcia Lorca, à l'époque où il sillonnait les routes de l'Espagne républicaine avec sa compagnie La Barraca, on arrive au grand drame, au meilleur drame, qui se joue des milliers de fois par jour, à la meilleure tragédie théâtrale qui existe au monde, je parle du Saint-Sacrifice de la Messe. À ma connaissance, Lorca n'était guère pratiquant. Était-il même croyant, c'est à l'émotion qu'il songe. Nous appellerons émotion, écrivait Sartre, dans une esquisse d'une théorie des émotions, une chute brusque de la conscience dans le magique. Ou si l'on préfère, il y a émotion quand le monde des ustensiles s'évanouit brusquement et que le monde magique apparaît à sa place. J'adhère et n'adhère pas à cette définition. Vu que j'ai tendance à confondre magique et sacré, et surtout parce que Sartre, définissant l'émotion comme un mode d'existence de la conscience, nous dit qu'elle est une façon dont elle comprend son être dans le monde, qui est deux, l'un magique et l'autre déterminé. Or, l'émotion, commotion du corps et de l'âme, particulièrement l'émotion religieuse, semble plutôt nous en sortir du monde. Un instant éternel balaye le moment historique. Retenons la chute brusque qu'évoque Sartre. Tous les peintres de la conversion de saint Paul sur le chemin de Damas n'ont pas représenté, parfois ou par instinct, une chute dans le magique, mais causée par lui, ou si vous préférez, par le magicien prodigieux. La lumière et la voix désarçonnent le sable de Tarse. Il en tombe de cheval. En rien, aucune ligne des actes des apôtres ne précise qu'il était à cheval. Pour figurer la conversion, ils ont besoin d'une chute. De l'état de choc qui nous retire au monde ordinaire témoignent souvent les larmes. Larmes amères de l'apôtre Pierre après le chant du coq. Larmes de la grande Thérèse lorsqu'elle lit dans les aveux qu'Augustin fond en larmes. Les larmes sont contagieuses. Je la cite. Quand j'en arrivais à sa conversion, que j'ai lu comme il entendait cette voix dans le jardin, au tressaillement de mon cœur, je crus que le Seigneur s'adressait à moi. Je demeurai un long moment, tout inondé de larmes, rempli d'affliction et de tourments. Mais les larmes de joie sont heureusement plus fréquentes. Et il y a dans la divinité de Thérèse, dans son appartenance divin, quelque chose d'aussi vaillamment concret que ces émotions. Et ses larmes, c'est quand elle, furieuse que ses filles, veulent tout le temps faire oraison et ayant besoin d'elle au fourneau, explique parmi les ermites, c'est le Seigneur. Entre les cocheros, anda el Señor. Les arts de la beauté aussi, quand ils atteignent en poésie, en musique, en peinture, voire en tauromachie, ces hauteurs profondes, créent un transport semblable, un semblable abandon. À chacune de mes passes, disait le torero Rafael El Gallo à propos d'une faïna fameuse, les larmes me jaillissaient des yeux. Il en était de même pour ceux qui le regardaient. C'est pourquoi un écrivain espagnol du siècle dernier, pour parler de l'art de torer lorsqu'il atteint les cimes, détourna, sans que personne y trouve rien à redire, deux vers du conte spirituel de Jean de la Croix, exprimant une expérience d'ordre divin. La musique silencieuse, la solitude sonore. L'important, selon le torero Juan Belmonte, un des saints de la tauromachie, et que l'émotion intime dépasse le jeu du combat, qu'au terme d'un enchaînement de belles factures, les larmes viennent aux yeux du torero, ou qu'il ait ce sourire de béatitude, de plénitude spirituelle, que l'homme éprouve chaque fois que l'exercice de son art, le sien propre, le plus infime, le plus modeste soit-il, lui fait sentir le coup d'aile de la divinité. Pour en revenir à la surface des choses, elle frémissante, visage sillonné de larmes, je dirais qu'une fois la première éducation terminée, disons la trentaine venue, ayant entrevu à peu près qui j'étais et n'étais pas, j'entrepris d'écrire mon premier roman, un roman d'éducation autocritique, Les Démons. Puisque je n'étais en fin de compte qu'une bourgeoise, je le serais d'un type un peu particulier. Pour me distinguer, j'avais trouvé un pli, une manière, qui me détachant légèrement du monde ordinaire, me permettait de l'éviter. Je ne rattachais pas ce désir de lévitation à mon vieux fond catholique, vivant alors éloigné de la religion, mais à mon amour de la courtoisie et à un vif besoin d'embellir. J'intitulais ce roman La bourgeoise surnaturelle. Mon éditeur ayant jugé le titre trop proche de rêveuse bourgeoisie, j'en changeais. Dans les années 80, par un enchaînement inéluctable qu'il n'y a pas lieu d'évoquer ici, je fus conduite à recommencer mon éducation religieuse et surnaturelle. Barbé de Révilly pensait « La surnaturalité du catholicisme, c'est la grande notion qui le clarifie et lui donne la limpidité d'un verre d'eau. » Le seul problème auquel je me heurtais, il était d'importance, était la prière. Non les prières mécaniques qu'on récite avec les autres quand ils vous font la grâce de ne pas chanter, mais cette conversation infinie qu'entretiennent avec Dieu les saints que je lisais, particulièrement Augustin, la grande et la petite Thérèse, et dont ils semblent tirer un si grand plaisir. J'enviais ce plaisir. Quant à faire aux raisons, à méditer sur les mystères, c'était un milieu de mes possibilités, et pas seulement par frivolité. Je n'ai jamais su penser abstraitement, pour penser j'ai besoin de papier. Il me vint une idée, pourquoi ne pas faire ce que j'avais toujours fait dans ma vie d'écrivain, quand une question d'importance se pose, j'écris un roman. Pourquoi ne pas imaginer le roman de quelqu'un qui aurait décidé de faire au présent? J'aurais renoncé, trop difficile, sans une intervention divine. La chose arriva, non point comme à Stephen, le héros de Joyce, dans un panier présenté par le docteur Angélique, mais sur une simple feuille de papier dont on se sert dans les églises le dimanche. Sur la feuille paroissiale, venait en premier ce dimanche une indication du calendrier liturgique qui se manifesta comme une épiphanie. On était un dimanche du temps ordinaire. Le temps ordinaire se mit à rayonner. Il se dégagea d'un bond de la feuille où il se trouvait, et sa réalité m'envahit comme une révélation. La liturgie appelle propre du temps l'autre temps, celui des mystères du Christ. Il y a tellement d'événements extraordinaires dans le christianisme. Noël, l'épiphanie, Pâques ou la résurrection, l'ascension, la Pentecôte, de miracles, on en dirait presque les semaines du temps ordinaire. Moi, simple profane, et avec moi, mon héros, avions besoin d'un miracle pour passer de l'un à l'autre. Le miracle espéré eut lieu et n'eut pas lieu jusqu'au bout. Ce n'est qu'aux toutes dernières pages du roman intitulé « La fin des temps ordinaires » que le cordonnier Labarthe décide d'aller passer ses vacances dans une cabane des Landes pour se céder à la vie contemplative. La vie contemplative. Heureusement, quelqu'un qui s'y était essayé m'avait rapporté ce propos d'un moine. Oh, c'est très simple, la vie contemplative. C'est comme traverser l'Atlantique à la nage en sachant qu'il n'y a pas d'Amérique. On comprendra que je ne sache toujours pas faire oraison. Pour clore cette journée, permettez-moi de vous raconter le moment le plus humain et divin que je connaisse. À l'âge de 35 ans, Jean Lacroix fut enlevé du couvent de l'Incarnation d'Avila et emprisonné dans un couvent de Tolède par les carmes qui ne voulaient pas de sa réforme. Il demeura 9 mois dans un réduit privé de lumière, soumis à toutes sortes de vexations. C'est dans l'obscurité qu'il écrivit les 30 premières strophes du cantique spirituel, chant amoureux entre l'époux et l'épouse, et nuit obscure, les plus beaux poèmes d'amour divin que je connaisse. Une vision de la Vierge lui ayant annoncé son évasion prochaine, il la prépara sereinement, avec un grand sens pratique, dévissa la serrure de son cachot, mesura avec un fil la hauteur de la fenêtre, découpa ses couvertures et descendit par nuit de pleine lune. Des inconnus l'aidèrent, il réussit à quitter Tolède pour Avila. C'est là que nous le retrouvons, réfugié dans le couvent du Carmélite déchaussé. Pour le réconforter, elle lui donne à manger des poires pochées à la cannelle. Et maintenant, dans l'église du couvent, toutes ces colombes assises autour de lui, l'écoutent réciter les vers amoureux de l'époux à l'épouse, de l'épouse à l'époux, en langue inconnue, poésie. Et elles entendent, transfigurées par le chant, la musica callada, la soledad sonora, la vague expérience ordinaire. Merci.
Je me sens presque gêné d'intervenir après ces deux interventions tout à fait exceptionnelles. L'intervention de Valère Novarina, qui était, on peut appeler ça une performance de lecteur-acteur, écrivain. Et puis la très belle lecture de Florence Delay, à la fois la légèreté et la gravité, je dirais, que j'entends dans tout ce qu'a dit Florence Delay. Elle a dit de très belles choses. J'étais très, très frappé par les lectures par lesquelles vous avez commencé de ce poème indien, ce poème pour la danse indienne. Je trouve ça très, très beau et en même temps, j'ai eu le sentiment que c'était utile au fond parce que d'un seul coup, ça nous déplaçait par rapport à toute une masse de questions qui nous viennent peut-être de trop près, même ici chez nous. J'avais ce sentiment-là en écoutant ce poème indien. Ça m'a beaucoup frappé parce que tout à l'heure, je pensais à des choses qui m'avaient quitté, qui sont revenues en écoutant. C'est-à-dire que quand, au début, je suis intervenu et que j'ai parlé très rapidement enfin, de ces mesures illusoires qu'on prend pour essayer de sortir de cette espèce de nihilisme généralisé, abject dans lequel on est, là, cette violence constante de ce système de domination, de technicisation, de domination du réel. Je pensais par exemple à l'écologie. Et je me dis à quel point l'écologie paraît stupide finalement, vu d'ici, alors qu'il s'agit de quelque chose de beaucoup plus fondamental et beaucoup plus simple, qui est de commencer à avoir un autre rapport à ce qu'on n'ose même plus appeler la nature finalement, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas humain. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas humain, ça comporte les dieux, évidemment, ou Dieu, ou le Dieu, ou le divin, et ça comporte aussi les loups. Et ça comporte les ruisseaux, et ça comporte les arbres. Et il me semble que c'est ça, d'une certaine manière, aussi le trésor que porte ce qu'on appelle chez nous, faute de mieux, la littérature, finalement, d'une certaine façon. La religion d'un côté, la littérature de l'autre, qui ne se confondent pas, mais qui a là quelque chose qui est de l'ordre de la, du maintien d'un trésor sans lequel je crois qu'on est complètement perdu, parce qu'on n'a plus aucun contact avec ce quelque chose que Heidegger appelle l'être. On n'est pas obligé d'appeler comme ça. Si on n'est pas philosophe, on n'est pas obligé de parler la langue des philosophes. Moi, ça m'a fait penser. Ce poème des Indiens, qui est un poème très beau et très rythmé avec ses répétitions et avec cette invocation de tout ce sans quoi les humains ne sont pas humains. Si les humains sont simplement entre humains, les uns avec les autres, il n'y a pas d'humanité. S'il n'y a pas le rapport à l'altérité qui s'appelle l'altérité du divin, l'altérité aussi des animaux. Les Grecs savaient ça. C'est simplement, j'avais envie de dire un mot sur les Grecs, y compris à Valère de Varina, puis je laisserai bien sûr tout le monde s'exprimer, sur le sacré, le divin et la Bible. Bien sûr, la Bible. Comment ne dirais-je pas où est la Bible? Et en tout cas, la Bible lue comme vous la lisez, me semble-t-il, c'est-à-dire d'un point de vue qui est un point de vue chrétien, qui est un point de vue d'ouverture, me semble-t-il. Mais, et les Grecs dans cette histoire, moi j'y tiens beaucoup quand même. Je ne veux pas céder sur les Grecs. Et je ne veux pas céder sur Homère. C'est pour ça que j'ai fait exprès de le citer à un moment donné, pour faire rapidement. C'est que la Bible, oui, mais qu'est-ce qu'on va faire d'Homère? Qu'est-ce qu'on va faire des dieux tels que Homère me les communique? Qu'est-ce que c'est que cette expérience? Alors, je ne l'appellerai pas expérience ni mystique, qui fait que Ulysse se sort d'une aventure, et justement, il croise une jeune fille. Et cette jeune fille va l'aider. Et dès qu'il la voit, il se dit, oh, c'est la déesse. Alors, qu'est-ce que c'est que cette expérience qui fait que Ulysse voit une jeune fille et il sait que c'est la déesse? C'est pas une jeune fille comme les autres. Là, c'est aussi une expérience du divin. Est-ce qu'elle nous est fermée? Est-ce que définitivement, pour fermer cette porte-là, je ne suis pas sûr, c'est tout. Voilà, j'avais envie de dire ça. Mais c'est une excursion peut-être qui est trop loin de la profondeur de ce qu'a dit et la beauté de ce qu'a dit Florence et surtout de l'intensité du propos de Valère Novarina. Simplement deux choses que j'ai notées au passage. Je suis très content de ce que vous avez dit sur la sculpture de Germaine Richier. Je trouvais ça très beau. Le crucifix humble, le fait que ce Dieu, c'est un Dieu humble, c'est un Dieu petit. C'est un Dieu enfant déjà, d'ailleurs, c'est extraordinaire. Moi, c'est une des choses qui m'a toujours enthousiasmé, étonné dans le christianisme. C'est la seule religion qui prend pour Dieu. Figure centrale de la divinité, un enfant. Et ça a traversé comme ça des siècles. C'est la Vierge à l'enfant, c'est une image tout à fait extraordinaire. On y réfléchit pas assez. C'est quoi ça, la Vierge à l'enfant? C'est une image absolument bouleversante, effectivement, de Dieu et du divin. Et c'est une image humaine en même temps, bien sûr. Bon, et puis aussi ce que vous avez dit sur Dieu a fait l'homme à son image, évidemment, et sur l'amour.
Oui. Je pense que ce qu'il y a de commun dans notre réponse à chacun très différente à la question qui nous était posée, la question du divin, c'est qu'il n'y avait qu'une seule réponse, c'était la prière. La prière, la prière dans l'adresse, la prière théâtrale, l'adresse, etc., la véhémence du dire, etc., ou l'oraison intérieure, etc., il n'y a pas d'autre réponse. C'est la seule réponse irréelle, je crois.
Oui, mais peut-être que c'est tellement central qu'on ne peut pas en parler.
Non,
par exemple, c'est ce qui se passe avec les acteurs. Voilà. Quand on travaille avec les acteurs, quand ça ne va pas, c'est toujours, c'est-à-dire un problème de respiration. Mais si on en parle de fond, c'est foutu. Il faut que la chute se débloque par ailleurs. Mais c'est toujours, c'est la respiration, c'est dans le fond, l'accord avec le temps qui est là, que l'acteur ne fabrique pas un rythme artificiel comme ça, volontaire, mais qui soit en accord avec la pulsation du temps qui est là dans la salle avec tous, comme s'il y a quelque chose de, c'est bizarre, je ressens bien, un rapport du cadre avec la nature. Et on est au de se poser juste sur le temps, et non se poser sur la mer du temps, sur la respiration profonde qui est là.
La contradiction est temps. Il doit à la fois faire ce que conseille l'ermite à Madame Guyon, trouver à l'intérieur, il lui dit faire ce qui est conseillé, c'est-à-dire à l'intérieur, et le donner à l'extérieur.
C'est ça. mystère numéro un du théâtre, et, enfin, c'est moi, la sensation de base que j'ai, que je ne sais pas dire autre chose que l'acteur porte son corps devant lui. Voilà, c'est tout. Il paraît que Grotowski disait ça aussi. Il disait qu'un acteur qui joue est comme un soldat au combat. Que vraiment, ce combat a lieu, il porte aussi son corps devant lui. Il y a une sorte d'étrangeté, d'étrangement du corps à ce moment-là. Il y a un état particulier. Il porte ses paroles, il offre son corps, il explique son corps. Il y a une expérience quand même spirituelle de l'acteur. C'est pour ça que les acteurs sont très souvent spirituels. Ou cachés, puisque c'est un milieu, c'est très mal vu. Mais il y a beaucoup d'acteurs qui ont fini au couvent, flirté avec le couvent, Mona Sully, Yvette Gilbert, Edith Piaf, Jean Gabin, j'en sais rien, peut-être bien, Louis Funès, etc. Donc les acteurs ayant une pratique du souffle sont en sympathie avec les écrits spirituels.
La pièce la plus frappante qu'avait montée Grotowski, dont il parle, qui était une pièce de Calderon, le prince Constant, représentait une arène. Avec au milieu de la reine, le prince Constant, quasiment né comme le Christ, qui répondait aux infidèles et qui résistait dans sa foi. C'était une image mêlée à la fois du Christ, de la reine, du martyr, etc. Bon, tout ça en polonais, personne ne comprenait rien, et tout le monde comprenait. Et ça, c'était une très grande force, parce qu'alors là, c'était quasiment que l'image.
Ce qui était extraordinaire, parce que j'ai eu la chance d'y être aussi, c'est qu'on était extraordinairement près du prince Constant, parce qu'il y avait pas une salle, et on était penché sur lui. Donc on était comme auprès d'un berceau, et il était dans sa passion, en bas, il y avait une sorte de proximité physique, quelque chose de l'ordre du toucher de l'acteur. Parce que ce qui est très mystérieux au théâtre, c'est le loin-près avec l'acteur. L'acteur est loin, on n'a pas le droit de monter sur scène, on n'a pas le droit de monter sur scène. Et en même temps, il est si près comme quelqu'un qui dormirait sur le même oreiller que vous parce qu'on partage sa respiration. Avec une expérience très particulière du moins près de l'espace.
Et quand vous dites qu'il offre, effectivement, il offre. C'est aussi une des choses que, à laquelle je pense depuis un long moment dans cette journée, c'est que quand à chaque fois on a buté, pour moi j'ai buté sur ces mots d'immanence, etc., de clôture, vous avez parlé de la clôture et de l'ouverture, c'est que ce à quoi on renvoie quand on parle du divin ou du sacré ou de l'âme ou de l'autre, c'est de ça qu'il s'agit, d'une expérience qui est une expérience de recevoir, se mettre en situation de recevoir pour pouvoir donner. Et en donnant, ensuite aussi on reçoit. C'est une espèce de mouvement interminable comme ça. Mais il me semble que c'est le cas de l'acteur, il me semble que c'est le cas du musicien aussi. Il a reçu, l'acteur il reçoit déjà, il reçoit un texte, on lui donne quelque chose. Il en fait quelque chose, il va le donner. Et vous dites bien d'ailleurs, il va le donner en étant à l'écoute de ce qu'on va lui rendre déjà dans le fait que les gens le suivent, les gens l'écoutent, ils sont là pour lui aussi. Donc il y a une espèce comme ça de pulsation temporelle, vous avez parlé dedans, c'est très juste. Il y a un autre rapport au temps là.
Au théâtre, enfin, l'acteur, il trompe l'échange, il trompe le système de l'échange. Il y a quelque chose de l'échange est biaisé. Moi, ce qui m'avait beaucoup frappé pour parler de Louis de Funès, parce que j'ai eu la chance de venir au théâtre, c'est qu'il y avait comme public des gens envisonnés, qui avaient mangé des choucroutes, qui allaient voir Louis de Funès et qui auraient été contents si je ne fatiguais pas comme Parfoguet à la brume. Voilà. Eh bien, il était là comme un torero, vraiment, à risquer sa vie sur le plateau et à dépenser une énergie absolument folle, il est mort de salaire. Il en donnait plus, il y avait une sorte de surdépense par rapport à ce qu'ils attendaient, par rapport au prix qu'ils avaient payé à la place. Et c'est déséquilibre de l'échange, cette chose étrange qui m'a beaucoup frappé dans sa présentation d'Oscar.
Peut-être que la salle va s'exprimer, puisqu'elle est restée très sage et patiente, et je pense que j'ai senti son attention en même temps à la salle.
Oui, c'est en écho à toutes ces belles paroles pour essayer de donner, de cerner le divin. Je voudrais laisser parler Yves Bonnefoy, qui, sur de grands cercles de pierre, écrit « On n'appelle pas Dieu par son nom, on l'appelle dans un nom, et du coup, ce peut être dans n'importe quel nom, c'est ce qu'on nomme l'amour. » je ne sais pas si c'est un hasard, mais j'entends la personne qui vient d'intervenir et de parler d'Yves Bonnefoy. Et je souhaitais également, avec les deux personnes qui sont intervenues, à savoir Mme Delay, Florence Delay et M. Novarina, parler d'Yves Bonnefoy à nouveau, en parlant d'un ouvrage concernant, je ne dirais pas Baudelaire seulement, mais l'homme des multitudes. Il a écrit un ouvrage, Yves Bonnefoy, concernant la littérature du XIXe siècle, en particulier les romantiques, et effectivement le lien entre la littérature, les romantiques et la perte de certains repères, à mon avis, enfin, à son avis, lui, surtout très important, puisqu'il n'y avait on avait quitté un monde qui était le monde religieux, qui était un monde basé sur des signes très très importants, très forts, et on se retrouvait effectivement au XIXe siècle avec énormément de gens qui arrivaient dans les villes, qui se perdaient dans les villes et qui avaient perdu de nombreux repères. Or, Yves Bonnefoy parle de Gérard de Nerval et parle effectivement, compare un petit peu, non pas la trajectoire, mais la trajectoire de Baudelaire et de Gérard de Nerval, qui a été un poète particulièrement touché par le monde sensible, une poésie du monde sensible, et lorsque moi-même, lorsque j'ai pu relire Gérard de Nerval, j'ai eu le sentiment de voir et de toucher le monde qu'il voyait et qu'il a décrit. Et Florence Delay, justement, dans le dit de Nerval, parle très bien de la relation entre le monde sensible et la poésie et la personnalité de Gérard de Nerval, mais malheureusement de son incapacité à pouvoir supporter l'absence de sa mère et malheureusement, je pense, la non-communication avec le père. Et donc, le sacré, est-ce que c'est aussi... Je pense, enfin, la question que je voulais poser, c'était effectivement les termes de communication et de rencontre. La rencontre, la communication et l'autre, finalement. Voilà.
C'est trop vaste. C'est trop vaste. Je pense que la réponse est dans votre question.
C'est pas évident de poser une question après de telles prestations. Oui, j'ai bien parlé. Donc, ma proposition, enfin, si c'est une proposition, déjà, je voulais remercier M. Novarina pour avoir réussi à distinguer, enfin, avoir défini le terme sacré, parce que, enfin, ça avait été esquivé, enfin, sans juger personne, mais j'ai l'impression que ça avait été esquivé pendant tout le reste de la conférence, et qu'on tournait autour de ça, mais sans jamais vouloir y venir, et que la plupart des intervenants tournaient autour de ça et allaient plus vers le sens mystique ou spirituel. Et donc, peut-être que, effectivement, le sacré, c'est quelque chose d'intouchable devant lequel il faut s'arrêter. Et que peut-être, dans l'acte d'écrire, c'est peut-être ça qui est sacré. C'est peut-être le moment où on écrit. C'est peut-être le moment où on fige les choses à un moment donné. Et plus que raconter du sacré, c'est-à-dire raconter des choses qu'on a pu expérimenter et qu'on a considérées comme étant sacrées. Et par contre, l'expérience qu'on peut raconter, ce serait plus une sorte qui serait rattachée à quelque chose de divin ou de mystique. Ce serait plus le récit d'un entre-deux moi, d'un souffle qui passe entre du récit d'un souffle qui passe entre un moi qui a vécu qui a été dans un état d'attente, qui a reçu et qui redonne. C'est exactement ce que vous disiez, monsieur Sichard. C'est cette espèce de dialogue d'avec les choses et de une retranscription après dans l'écriture de ce qu'on a vu, de ce dont on a pu être traversé à un moment donné. Donc c'est une sorte d'aller venu et d'extase, une sorte d'extase qu'on
Je vous remercie. On a quand même essayé d'avancer un petit peu. On a dit pas mal de choses. On a abordé plusieurs thématiques, plusieurs sujets. Et plutôt d'un côté des lectures personnalisées, d'autres davantage des réflexions ou des commentaires s'appuyant sur la littérature. Et vous avez eu à la fois la littérature, disons, d'elle-même incarnée. Et puis vous avez eu des références à la littérature. Et puis vous avez des réflexions qui sont plutôt générales ou philosophiques sur qu'est-ce que c'est que le sacré, qu'est-ce que c'est que le divin, et puis d'autres termes annexes, qu'est-ce que c'est que la sainteté, qu'est-ce que c'est que le saint, il faudra une nouvelle journée pour avancer là-dessus et nous clarifier les uns et les autres ce qu'on entend, y compris par le surnaturel. Florence Delà parle du surnaturel, ça c'est relativement simple. Le surnaturel, c'est les miracles, par exemple. Alors vous y croyez, vous n'y croyez pas. Moi j'y crois, quand Jésus fait des miracles, c'est des miracles, donc c'est surnaturel, et c'est tout à fait évident. Pour moi, voilà, il n'y a aucun problème, mais pas pour tout le monde, apparemment. Voilà, je crois qu'on peut peut-être remercier tout le monde. Il se fait tard, sans doute, à moins que je crois qu'on y faut arrêter là, peut-être. Hein. Voilà. Une dernière question. On va remercier Florence Delay et Valère Novarina de ce qu'ils nous ont donné ce soir.